Donc, Bezrat Hashem, la paracha cette semaine, c'est parachat Behar. Normalement, cette paracha vient coller avec la paracha de la semaine prochaine, mais comme c'est une année embolismique, alors on sépare les deux parachats de cette année. Alors, il y aura parachat Behar et parachat Bechukotai. Alors, cette semaine, le début de la paracha nous parle de la mitzvah de Shemitah, qui est l'année sabbatique, qui veut dire 6 ans. Sheshanim tizra sadecha, on sème la terre, ou bayev shana shevit, et la septième année, veshavetar et shabbat l'Hashem, la terre se reposera, et c'était la recommandation d'Hashem. On dit que, le début de la paracha, il commence en disant, vaydaber Adonai el Moshe behar Sinai les morts. L'Éternel parle à Moïse dans les montagnes de Sinai en disant, qu'est-ce qu'il lui dit la mitzvah de Shemitah? Rashi pose Mayan Shemitah et Tzlar Sinai. Pourquoi Dafka Shemitah? Toutes les 613 mitzvot ont été données à Sinai. C'est pas rien que cette mitzvah. Toutes les mitzvot ont été données à Sinai. Alors pourquoi on dit Vaydaber Hashem el Moshe Behar Sinai les morts? Et qu'est-ce qu'il dit à Sinai? Il dit voilà, il faut travailler la terre 6 ans et la 7e il faut la faire reposer. Et Rashi tout de suite pose la question, Kol la mitzvot ne'emru mi Sinai? Toutes les mitzvot ont été dites à Sinai, pas rien que la mitzvah de Shemitah. Alors Rashi dit non. Rashi répond au nom de nos sages, comme Kol HaMitzvot, toutes les recommandations, et particulièrement la mitzvah de Shemitah, Klalotea, Pratotea, Vidikdukea, Misinai, Af Kol HaMitzvot, Nemru Klalotem, Pratotem, Vidikdukem, Misinai. Comme la mitzvah de Shemitah, tous les détails de la mitzvah qui sont donnés dans la paracha ont été donnés du Mont Sinai, toute autre mitzvah a tous ces détails à cette mitzvah, n'importe quelle mitzvah des 612 autres mitzvot, tous leurs détails ont été donnés à Sinaï. Ce n'est pas une invention d'un rabbin ou quelqu'un qui l'a inventé. Tous les détails d'une mitzvah ont été donnés à Sinaï. Ça ne nous explique pas encore. Mais pourquoi on a choisi comme le phare, l'exemple en parfait, c'est la Shemitah. Tu aurais pu prendre n'importe quelle mitzvah et dire, cette mitzvah vient de Sinaï avec toutes ses recommandations, avec tous ses détails, comme tout autre. Mais pourquoi tu as choisi la Shemitah? Le Khatam Sofer, il a un point intéressant. Il dit parce que la Shemitah, cette année sabbatique, la mitzvah de reposer la terre, est une preuve, Yesh Torah Menashamayim, que la Torah vient du ciel. Comment? Il dit que la Torah, cette semaine, nous dit, il y a une promesse, que si quelqu'un pense d'accomplir cette mitzvah, et le sait reposer la terre la septième année, alors, Vetziviti et Birchati, à quoi je vous dis, je donnerai ma bénédiction à la sixième année, et la sixième année fera de la récolte les Shalosh Shanim. Il y aura une récolte de 3 ans. Sixième pour la sixième. Septième pour la septième année. On ne peut pas labourer la terre. Et jusqu'on commence, la huitième année, commencer à travailler la terre, on n'a pas encore quoi manger. Il y aura une troisième, ça veut dire qu'une bénédiction, troisième culture, pour souvenir aussi à la huitième année. Dit le Khatam Sofer, si Moshe Rabbeinu aurait inventé la Torah de lui-même, ou si n'importe quel autre rabbin au monde aurait inventé la Torah de lui-même, qui c'est qui peut promettre chaque sixième année une récolte pour 3 ans? Parce que si tu te fais attraper 1 an, c'est fini. Les gens vont dire, alors tout ce que tu as dit, c'est pas vrai. Ça veut dire, si Akadosh Baruch Hu promet, tu peux pas l'attraper sur ce mot et pas le dire, mais comment ça se fait qu'on n'a pas eu? On l'aura. 100%, c'est garanti. Aucune mitzvah, dans aucune autre mitzvah, on peut même discuter. Mais peut-être il a inventé, peut-être Moshe Rabbeinu nous l'a dit de lui-même. On peut toujours, c'est lui qui veut. C'est lui qui veut croire, il va croire. Mais c'est lui qui veut, il peut toujours trouver la manière de poser la question. Mais dans la Shemitah, qui a une promesse, qui c'est qui peut promettre? Sauf Akadosh Baruch Hu. Parce qu'il faut que ça soit durant 6000, ça veut dire durant, on va dire jusqu'au fin des 6e millénaire, chaque 6e année, il y aura récolte pour 3 ans. Le seul qui peut le promettre, et on peut le voir, c'est Hachem. Et puisqu'ils ont cette mitzvah, on peut voir la main d'Hachem, c'est pour ça qu'il a été distingué et choisi comme la mitzvah qui va dire, voilà, comme cette mitzvah a été donnée à Sinaï sans discussion, il n'y a pas de discussion là-dessus parce qu'on peut voir la bracha de cette mitzvah, tous les détails de cette mitzvah ont été donnés à Sinaï, sachez aussi que toutes les 612 autres mitzvot ont été données sur le mont Sinaï. Seulement quoi? La Torah sait déjà qu'il y aura des gens qui n'auront pas la foi à 100%. Vechi tomar, manochal bashana ashevi'it. Il y a des gens qui vont poser la question, qu'est-ce qu'on va manger? Écoute, j'arrête de travailler la sixième année, Qu'est-ce que je vais donner à cette émanée? J'ai des enfants à la maison, j'ai des familles à nourrir. Qu'est-ce que je vais donner? Dit la Torah, Vetzivitit birchati, je donnerai ma bracha, Vasat et ta tevoa, les shaloshanim. Et la terre fera une récolte de 3 ans. Ça, je te promets. Mais ça veut dire que si on pose la question, c'est comme ça. Et si on pose la question, c'est pas comme ça. C'est-à-dire, rien que si on aurait posé la question, qu'est-ce qu'on mangera? La Torah promet une récolte de 3 ans. Et si on ne pose pas la question, si on a la émouna, on a la foi, on a Kodesh Baruch Hu, est-ce que ça ne fera pas pour 3 ans? Pourquoi la Torah dit, si vous posez, voilà, je donnerai. Et si on ne pose pas, tu ne donneras pas? Non. À Kodesh Baruch Hu donnera la bracha de toute manière. De toute manière, il y aura une bénédiction. La seule différence est, celui qui a la foi, on a Kodesh Baruch Hu, la récolte de la 6e année ne va pas différer des autres années précédentes. Ça va être la même quantité. Des années précédentes, la première, la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième. Seulement quoi? Il y aura une bracha dans la nourriture. Qui veut dire que tu mangeras peu et tu auras une bracha que tu seras rassasié. Tandis que si tu poses la question, tu n'as pas de la foi en Akosh Baruch Hu, tu poses, hey, je ne sais pas, qu'est-ce que je vais faire? Ok, toi tu veux voir, je vais te donner à voir. Tu vas voir une bracha triple. Tu vas voir que ton champ, s'il faisait un temps de récolte jusqu'à date, il va faire 3. Tu vas faire 4. Tu vas voir. Tu pourras voir. Et là, tu serais tranquille. Tu sais, c'est quoi la différence entre les deux bénédictions? En fin de compte, tu auras la récolte pour 3 ans. Mais la différence est grande. Quand tu ne poses pas des questions, tu auras la même quantité. Tu auras moins à travailler. Tu n'auras pas à louer de place ou emmagasiner toute cette récolte. Et tu ne travailles pas le triple. Et tu auras un bracha. Si tu poses la question manochal, tu dis qu'est-ce que je vais manger? Là, tu as un problème. Pourquoi? Tu auras la bracha. Mais va travailler maintenant le triple. Si le champ a donné le triple de récolte, il faut que tu travailles le triple de temps. Il faut que tu trouves des places où emmagasiner tout ce blé. Il faut que tu assures que ce blé ne pourrit pas. Alors, tu auras la bracha, mais tu l'auras avec un travail supplémentaire. Alors, à la fin, en fin de compte, tu l'auras. Mais sache que tu l'auras avec un travail. Maintenant, cette paracha, cette mitzvah surtout, nous enseigne la emuna, qui veut dire la foi en Akosh Baruch. Avec cette mitzvah, on a la foi en Akosh Baruch Hu. Le Rav Ben Ishraï, il nous dit que dans la foi en Akosh Baruch Hu, il y a 3 niveaux. Il y a 3 niveaux. Shalosh Madrigot, il y a 3 niveaux dans l'Emunah Akosh Baruch Hu. Il dit, par exemple, une personne qui a une situation difficile. Dans la vie, Chas V'Shalom, des fois, il y a des situations difficiles qui se présentent. Maintenant, cette personne, il dit, moi j'ai la Emunah. Moi, j'ai la foi en Kodesh Baruch Hu, il va me sortir de cette situation. Pourquoi il le dit? Parce qu'il n'a pas d'autre choix. Il n'a pas d'autre choix. Qu'est-ce qu'il va dire? Je n'ai pas la Emunah. Il a la Emunah. Mais en fin fond de lui, il doute. Peut-être ça, Kodesh Baruch Hu ne m'aidera pas. Et peut-être je ne mérite pas. Il dit, mais il n'est pas sûr de ce qu'il dit. Ça veut dire qu'il n'est pas à 100%. Il le dit. Il dit, j'ai Emunah, mais tu n'as pas le choix que dire ça. Alors tu le dis, mais tu n'es pas sûr. Ça, c'est un niveau de Emunah, c'est un niveau de croyance, mais pas tout à fait. C'est pas tout à fait un niveau. Un niveau un peu plus élevé que ça, une personne qui sait que quand il a un problème, qu'Akosh Baruch Hu lui fera un miracle. Il sait, à 100%. Mais la chose est, il ne le dit pas à quelqu'un d'autre. Il ne va pas le dire à quelqu'un d'autre. Tu sais, je suis sûr qu'Akosh Baruch Hu me fera le miracle. Mais lui, en fin fond de lui, il est convaincu à 100% qu'Akosh Baruch Hu lui fera ce miracle. Le Rav Ben Ishraï nous donne l'exemple de la femme de Rabbi Hanina Ben Dosa. La femme de Rabbi Hanina Ben Dosa, c'était un grand érudit, un grand tzaddik. N'importe quelle bénédiction, le grand de la génération, Rabbi Yochanan Ben Zakkai, son maître, il envoyait des bénédictions à lui. Ça veut dire, quand il avait besoin d'une bénédiction, il envoyait pour qu'on lui demande qu'il lui donne une bénédiction. Et sa femme lui dit, hey, toi tu es le maître, lui c'est l'élève, tu demandes une bénédiction à ton élève, c'est toi qui dois lui donner une bracha. Il dit, non, moi je suis son maître, mais moi je suis comme un ministre envers Akosh Baruch Hu. Ça veut dire, dans le palais d'Akosh Baruch Hu. Mais lui, c'est un esclave dans le palais d'Akosh Baruch Hu. Un ministre, quand il veut rentrer chez le maître, chez le roi, il a besoin de l'autorisation. Un esclave, quand il veut rentrer chez le roi, il n'a pas besoin, il rentre. Parce que si un esclave doit demander, est-ce que je peux vous servir, sa majesté? Alors, il ne rentrera jamais. Alors, lui, il a l'accès libre. Il a dit, c'est ça la différence entre moi et lui. Lui, c'est un esclave d'Akosh Baruch Hu. Il peut rentrer chez Akosh Baruch Hu quand il veut. Et c'est pour ça que tous les rabbins envoyaient de quand il y avait quelqu'un malade, ils les envoyaient à Rabbi Chaim ben Dosa pour que lui, il donne la bénédiction. Mais lui, il était très pauvre. Très, très pauvre. Au point qu'une fois, il a demandé qu'on lui donne quelque chose du ciel. On lui a donné un pied en or, mais sa femme lui a demandé de rendre cela. Elle ne voulait pas qu'il lui manque quelque chose dans notre monde. Alors, il était très, très pauvre. Au point que la Gemara nous explique, dans Maseret Ta'anit, qu'il n'avait même pas des bois secs pour mettre dans le four pour cuire son pain. Parce qu'il n'avait même pas de la pâte pour faire du pain. Maintenant, sa femme, elle avait honte. Pourquoi ? Avant, chacun il avait son four à la maison. Alors, qu'est-ce que tout le monde cuisinait pour Shabbat ? Leur propre halal à la maison. Et on voyait du cheminée de maison, on voyait la fumée qui sortait. La femme qui avait honte, qui n'avait même pas la pâte pour mettre dans le four, qu'est-ce qu'elle faisait ? Elle ramassait des bois secs et elle brûlait dans son four et pour que la fumée sorte, pour que les gens pensent qu'elle a le chalot. Mais elle n'avait pas, même pas la chala pour Shabbat. Elle avait une voisine qui était méchante. Et cette voisine, une fois, se pose la question, mais comment ça se fait que je vois de la fumée qui sort du cheminée quand je sais qu'ils n'ont même pas de la pâte ? Tout le monde savait qu'il était très pauvre. Elle dit, mais qu'est-ce qu'elle brûle ? Qu'est-ce qu'elle fait ? Elle ne fait rien. Alors, par méchanceté, il est parti voir qu'est-ce qui cuit dans le four. Maintenant, la femme de Rabbi Chaim ben Dosa, quand elle l'a vu venir, elle savait exactement où est-ce qu'elle revient, cette femme, et qu'est-ce qu'elle va parler le lendemain à tout le monde, la Shonara, voilà, ils ont rien, ils font semblant et tout ça. Elle est partie se cacher dans une chambre. La voisine, sans frapper sur la porte, sans rien, elle rentre à la maison, elle rentre voir le four, et elle voit que le four est plein de chalot. Plein de chalot. Alors elle appelle. Elle a dit, viens, où tu es parti ? Tes chalot, ils vont brûler pour Shabbat, viens. L'autre femme, la femme, Rabbi Chaim ben Dosa, elle sort avec comme une pelle qui rentrait dans le four, et elle dit, mais justement, j'allais chercher la pelle pour sortir les chalot. Alors, c'est un miracle. Mais est-ce qu'elle a dit ça rien que parce qu'elle avait honte, ou vraiment elle est partie chercher la pelle ? La Gemara dit, c'était pas un mensonge. Quand elle a vu la voisine venir, elle savait à 100% qu'Akajou lui fera le miracle de remplir le four avec des chalot. Et quand elle a dit « Je ne suis pas venu chercher la pelle », elle a fait avec l'intention de chercher la pelle. Et voilà que le four se remplit avec des chalot. Maintenant, elle, sa croyance, sa émouna, Akajou était à 100%. Elle savait à 100% qu'Akajou lui fera ce miracle pour ne pas lui faire honte. La seule différence, c'est qu'elle a dit à personne, même pas à son mari, à personne. Elle l'a gardé pour elle-même. C'est un niveau de croyance, c'est un niveau de émouna, mais c'est un deuxième niveau. C'est pas encore le top, c'est pas encore le summum de la émouna. Qu'est-ce que c'est le summum de la émouna ? À quel point on peut arriver dans la émouna, dans la croyance ? Dit le Rav Ben Ishraï, voilà une histoire qui arrive en Israël. Vous savez qu'Israël c'est un pays qui avait beaucoup de sécheresse. Et à l'époque, au début d'Israël, il y avait des Arabes et des Turcs. Et d'Israélites qui habitaient ensemble, ou des Palestiniens. Maintenant, qu'est-ce qui arrive ? Toujours quand il y avait un problème, à qui on attaquait, à qui on blâmait ? Toujours les Juifs. Alors, une année de sécheresse, même pas une goutte d'eau, les Juifs ont prié, les Arabes ont prié de leur côté, mais il n'y a pas, dans le ciel, ça n'a même pas l'air que cette année, il y aura de l'eau. Comme d'ailleurs cette année. Cette année aussi, en Israël, il y a un manque d'eau. Il y a manque d'eau. Maintenant, ils pensent maintenant à prendre de l'eau et de la mer et le... Dessaliser. Oui. Maintenant, qu'est-ce qui arrive ? Le Pacha, en Israël, à cette époque, il envoie un message au rabbin de la communauté juive en lui disant, si vous ne priez pas assez fort qu'il y aura de la pluie cette semaine, je vous envoyerai tous de ce pays, vous n'aurez pas le droit d'habiter dans ce pays et à part, je tuerai beaucoup de vos frères. Donc, c'était une menace, mais il n'y avait pas le choix qu'écouter. Qu'est-ce qu'ils vont faire ? Le Rav va décréter comme quoi qu'ils vont aller prier sur la tombe de Rachel Imenu. Il a dit, tous on va aller sur la tombe de Rachel Imenu. Mais il a fixé une date, mais il a demandé à tout le monde. Tout le monde sont obligés de venir avec des manteaux et avec des bottes. Mais Rav, il fait 40 sous l'ombre. Quel manteau, quelle botte ? Il dit, c'est la condition. Donc, toute la ville se ramassait, tous les jours se ramassaient avec des manteaux, avec des bottes. Et ils étaient en route pour aller à la tombe de Rachel Imenu pour prier. En route, il y avait un gardien arabe. Et ce gardien, quand il a vu le Rav et toute la communauté qui suivait le Rav, il lui dit, dis-moi, il fait 40 sous l'ombre. Où tu vas avec ce manteau, avec ces bottes ? Il dit, parce qu'en retour, il va pleuvoir. Alors, on s'est équipé. L'autre, il n'a pas aimé la réponse, il a donné une gifle au Rav. Il a dit, maintenant continuez. Et faites ce que vous allez faire, mais il n'y aura pas de la pluie. Le Rav est arrivé sur la tombe de notre matriarche Rachel. Tout le peuple en pleurait, ils ont fait des prières. Vers l'après-midi, voilà le ciel, on voit déjà du nuage dans le ciel. Une heure plus tard, il y a de la pluie forte qui descend sur terre. Et bon, Hachem, ça commence à remplir les puits. Et tout le peuple commence à retourner chez eux à la maison. En retour, ils voient toute la communauté voit l'arabe en train de courir vers le Rav. Il court et il pleure, il court. Et là, il embrasse le pied du Rav. Il dit, je m'excuse, Mechila. Il prend le Rav, il le met sur ses épaules. Il l'emmène chez lui à la maison. Il lui dit que je ne croyais pas, mais je vois que vous êtes un homme saint. Comment vous avez su que la pluie va descendre aujourd'hui? Dit le Rav Ben Ishraï cette histoire. Le Rav, c'était Rav Moshe Galanti, un des grands kabbalistes en Israël à l'époque. Le Rav Ben Ishraï explique, ce Rav, non seulement qu'il avait la croyance et la émouna qu'Akadosh Baruch Hu va faire descendre la pluie, mais il a même dit, il était tellement sûr qu'il pouvait le dire même. Alors la femme de Rabbi Chaim Nosa, elle était sûre qu'il y aura le miracle, mais n'a pas dit à quelqu'un d'autre. Et c'est lui, le troisième niveau, le plus inférieur, c'est lui qui est sûr qu'Akadosh Baruch Hu lui fera un miracle, mais toujours il a ses petits doutes. C'est le niveau le plus inférieur de la Emouna. Maintenant, parlons de ce niveau d'Emouna. Nous allons voir à travers des textes des Talmud de différentes périodes de temps que dans le peuple d'Israël, il y avait différents niveaux de croyance d'Emouna en Akadosh Baruch Hu. Voilà, le Talmud nous dit dans un passage qu'il y avait quatre rois, qu'un roi était différent de l'autre. Comment ? Le roi David. Le roi David, c'était un guerrier. Qu'est-ce qu'il dit le roi David dans Tehilim? Erdof oivai va asigem. Je vais courir après mes ennemis et je veux leur tuer. Ça veut dire que le roi David n'a pas peur de ses ennemis et il court après ses ennemis. Il dit, je veux même leur tuer. Et le roi David, on savait qu'il avait beaucoup de miracles dans ses guerres. Mais il dit, je sortirai dans le front de la guerre avec mes soldats et je poursuivrai mes soldats et mes ennemis. Le roi qui est venu après David, c'est le roi Asa. Le roi Asa, il dit à Akadosh Baruch Hu, moi je n'ai pas la force de tuer mes ennemis. C'est mes ennemis, mais je ne peux pas leur tuer. Mais je peux faire une chose, je peux leur poursuivre. Je vais poursuivre mes ennemis, mais toi Akadosh Baruch Hu, fais-leur tomber devant moi. Et c'était comme ça. Lui, le roi Asa poursuivait ses ennemis, et ses ennemis tombaient. Ils s'est tués eux-mêmes. Le roi qui est venu après Asa, c'était le roi Yoshaphat. Le roi Yoshaphat disait à Akadosh Baruch Hu, moi je ne suis ni le roi David, ni le roi Asa. Moi je suis Yoshaphat. Et tout ce que je peux faire, c'est m'asseoir chez moi à la maison et lire Tehilim. Moi je vais lire Tehilim qui a écrit le roi David. Et vous Akadosh Baruch Hu, faites tomber mes ennemis, écrasez-le. Mais je ne sortirai même pas de ma maison. Je m'assoirai et je lirai le Tehilim. Le roi qui est venu après lui, le quatrième, c'est le roi Hizkia. Lui Akadosh Baruch Hu, écoutez. Je ne suis ni le roi David, ni le roi Asa, ni le roi Yoshaphat. Moi, je vais aller dormir et vous allez vous occuper de mes ennemis. Et c'est comme ça. Jérusalem a été assiégée par 185 généraux d'armée. À part tous les soldats, ils disent qu'il y avait à peu près 900 000 soldats. Le lendemain matin, ils sont tous des cadavres morts devant le palais du roi. En quoi? Ils disaient, même pas Tehilim. Moi, je vais aller dormir. C'est ça? Alors maintenant, il faut comprendre ce passage Talmud. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Tu vas dormir, tu te demandes à Kajrou de t'occuper de tes ennemis. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Alors en vérité, il y a le Rav, il y avait un Rav, le Rav Sarfati, et Rabbi Yosef Sarfati, il y a 350 ans à peu près. Il a donné une explication sur ce passage Talmud. Il disait que, regardez la différence entre les quatre rois. Le roi David, à son époque, le peuple était des pieux. C'est des hommes pieux. Ils avaient confiance dans le roi David, ils avaient confiance surtout en Akadosh Baruch Hu. Quand ils poursuivaient leurs ennemis et ils arrivaient à battre les ennemis et surmonter les ennemis, toujours ils remerciaient Akadosh Baruch Hu. Ils disaient, nous sommes des rien. C'est Akadosh Baruch Hu qui a tout fait pour nous. Maintenant, on sait que plus que génération avance, plus que la croyance des fois, Chas v'Shalom, elle baisse. La génération d'après, le roi Asa, le roi disait, moi j'ai peur que si on tue nos ennemis, mes soldats, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire que c'est nous que nous avons fait la guerre. Nous avons gagné la guerre. Qu'est-ce qu'il dit le roi à ça, à ses soldats? Écoutez, on va seulement poursuivre. Parce que je veux que vous voyez comment Akadosh Baruch Hu va faire tomber vos ennemis et que vous comprenez que ce n'est pas vous C'est Akadosh Baruch Hu qui va le faire pour vous. Alors vous, vous allez faire l'effort minimal ou maximal, c'est de poursuivre et laisser Akadosh Baruch Hu faire le reste. Pour que vous compreniez, vous, vous n'avez rien fait. Parce que si vous aurez tué vos ennemis, vous aurez dit le lendemain, c'est nous qu'on a gagné. Le roi d'après, le roi Yoshafat, il dit, moi je m'aime faire sortir et poursuivre mes ennemis parce que mes soldats ils vont dire, ah tu as vu comment on a tué nos ennemis, on n'a rien poursuivi, ils sont morts. Alors son peuple, le peuple à l'époque était, la croyance était tellement basse qu'ils se croyaient et qu'ils vont dire, nous. Alors il dit, vous savez quoi? On s'assoit tous à la maison en lisant Tehilim. C'est impossible en lisant Tehilim que les ennemis tombent. Et là, vous allez comprendre, ça vient directement d'Akadosh Baruch Hu. Et le roi Hizkia était dans un niveau, ça veut dire pas lui, son peuple, était dans un niveau que même en lisant des Tehilim, ils vont dire, tu vois, qu'est-ce qu'ils font les Tehilim? Tu vois, qu'est-ce qu'on a fait? C'est à notre mérite. Il a dit, allez-y tous dormir. Laissez Akadosh Baruch Hu faire le reste. Pour dire que la raison que chaque roi, il a diminué une chose de l'autre roi, parce que le mieux où est-ce qu'ils ont vécu, la Emouna a baissé et les gens risquaient de dire nous, c'est nous qu'on a fait ça. Mais celui qui a la Emouna, il doit comprendre que tout vient d'Akadosh Baruch Hu. C'est quand on ne croit pas que tout vient d'Akadosh Baruch Hu, c'est là qu'il y a des problèmes. Maintenant, on peut le montrer aussi par une chose qui a été dite par un rave, une chose que je trouvais très belle. Ce Rav, il a dit, si on remonte un peu dans l'histoire de Bereshit, et on arrive à l'histoire de Noach. On arrive à l'histoire de Noach. Vous savez que Noach, lui et sa famille, c'était le seul à être sauvé de toute l'humanité à l'époque. Et Akadosh Baruch Hu voulait sauver le monde. Mais comment Akadosh Baruch Hu va sauver le monde? Il va demander à Noach de sauver sa famille. Trois garçons, trois belles filles, lui et sa femme. Il va demander à Noach à prendre tous les animaux qui existait sur terre, au moins un échantillon. C'est quoi un échantillon? Un paire d'animal, chaque animal, ils vont venir un paire, et le cachère, 7. Pourquoi 7? Parce que quand ils vont sortir, Noach aura à faire des sacrifices, et pour que s'il y aura un seul paire, ils vont disparaître, alors il a été demandé d'emmener 7 paires d'animaux cachères, de là où on prouve déjà que Noach connaissait la Torah. Parce que comment il savait quel animal est cachère ou pas cachère? La Torah n'a pas encore été donnée. Ça veut dire que depuis Adam, la Torah a été connue, mais elle n'a pas été reçue comme telle, mais elle a été connue. Maintenant, Akadosh Baruch Hu lui dit à Noach aussi, à part les animaux, je te demanderai de prendre un échantillon de chaque plante. Le pommier, le poirier, les figuiers, le raisin, la vigne, tout, tu vas prendre de toutes les plantes, un échantillon, une petite plante, pour que tu puisses le planter, le semer en sortant de la Teva. Le Midrash, le Tosfot, il nous emmène un Midrash qui dit, Noach a ramassé tous les animaux, Noach a ramassé toutes les plantes, sauf une plante, l'olivier. Parce que l'olivier n'aurait pas résisté dans la Teva, car Noach était enfermé avec sa famille un an dans la Teva. Alors l'olivier, c'est le seul arbre qu'on n'a pas pris sa plante pour le rentrer dans la Teva. Mais Noach, qu'est-ce qu'il a dit? Au moins, j'ai pris tous les animaux et au moins, j'ai pris toutes les plantes. C'est dommage. Shabbat, en venant à la maison, je ne pourrais pas faire l'apéritif avec des olives. Mais on peut survivre sans des olives et d'abord sauver la vie. Et Noach, comme ça, il était perturbé à cause de ces olives-là qu'il n'a pas emmenées. Mais il a dit, ça va, au moins, je me sauve moi-même. Regardez, Akadosh Baruch Hu, il a envoyé un message à Noach un an plus tard. Un an plus tard, il envoie un message à Noach. Noach veut sortir de l'arche. Alors, il envoie d'abord le corbeau qui fait des tours autour de la Teva. Il ne veut pas aller, il retourne. Alors, il envoie 7 jours plus tard la colombe. La colombe va et elle retourne. La colombe, il attend 7 jours, il envoie une deuxième fois. La colombe retourne. Avec quoi elle retourne? Une branche d'olivier. De tous les arbres qu'il peut avoir. Rien qu'une branche d'olivier, c'est quoi le message? C'est quoi le message? Dit, hein? Oui, mais il y avait un déluge qui a exterminé toute la terre. Alors il y a toute une discussion d'où ce que cet olivier est venu. Une opinion qui dit il est venu de Gan Eden. La colombe est partie à Gan Eden, elle a emmené une branche d'olivier. L'autre opinion dit non. Le déluge, le Ramban, le Nahmani dit, le déluge n'a pas tombé directement en Israël. Il est tombé partout dans le monde. Mais pas en Israël. Ce qui a fait qu'il y avait encore des arbres en Israël. Ça veut dire qu'il y avait une inondation en Israël. mais le déluge n'est pas tombé en Israël. Ce qui a fait que les arbres sont restés en place. Mais pourquoi la colombe de tous les arbres qui sont restés en Israël, elle a emmené une branche d'olivier? Elle aurait pu emmener d'un pommier ou de n'importe quoi. Pourquoi l'olivier? C'est le message d'Akosh Baruchou. Il lui dit à Noach, Noach, maintenant tu vas sortir de la Teva et tu vas me dire, c'est grâce à moi que le monde a été sauvé. J'ai sauvé tous les animaux, j'ai sauvé toutes les plantes. Ça veut dire, c'est grâce à moi que le monde va recommencer de nouveau. Mais tu as oublié de sauver une chose. L'olivier, tu n'as pas sauvé. Et tu crois que sans l'olivier que tu n'as pas sauvé, il n'y aurait pas des olives dans le monde? Tu crois qu'à partir de Noach jusqu'au fin de 6e millénaire, il n'y a pas des olives? Je peux t'envoyer des olives. Il lui dit, si je veux, je peux même envoyer des olives. Alors le message qu'Hachem a envoyé à Noach, c'est, ne crois pas que tu l'as fait. Des fois, on croit que nous faisons les choses. Et Akadosh Baruch Hu nous dit, moi je vous laisse faire, je vous donne la bénédiction, mais ayez la croyance, vous ne faites rien. C'est moi qui fais, mais des fois on pense que nous on fait tout ce qu'il faut faire. C'est pour ça qu'un rave qui s'appelle le rave de Brisk, un jour il a rencontré un de ses élèves, après plusieurs années, il l'a rencontré. Il lui a dit, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Il n'a pas vu des années, il a dit, qu'est-ce que tu fais? Ah, il dit, rave, j'ai monté un bon business, une bakerie, Baruch Hashem, il y a beaucoup de gens qui viennent et tout ça, j'ai la parnassa et tout. Ok. 10 minutes plus tard, le rave lui dit, qu'est-ce que tu fais? Il dit, je vous ai dit, je fais une bakerie, Baruch Hashem, il y a beaucoup de gens, j'ai la parnassa de ce bakerie, tout ça. 10 minutes plus tard, il lui dit, qu'est-ce que tu fais? Il répète encore. Il dit, mais pourquoi tu répètes 3 fois la même chose? Il dit, vous me demandez qu'est-ce que je fais? Il dit, non, je ne t'ai pas demandé qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu fait pour toi. La parnassa que tu as de ce bécri, c'est Akadosh Baruch Hu qui le fait. Toi, tu ne fais rien. Toi, tu ouvres les magasins, mais c'est Akadosh Baruch Hu qui t'envoie la parnassa. Je te demande qu'est-ce que tu fais toi pour Akadosh Baruch Hu. Toi, Akadosh Baruch Hu, tu as ouvert une bécri, il t'a donné la bracha, il t'a donné de l'argent, il t'a donné tout ce qu'il faut. Tu es content, mais qu'est-ce que toi, est-ce que tu étudies toujours? Est-ce que tu vas toujours à la prière? Alors, tu crois que tu fais? Tu crois que tu vas vers un business et le business marche grâce à toi. Tu ne fais rien, c'est Akadosh Baruch Hu qui fait tout. D'abord, qu'est-ce que tu fais toi pour Akadosh Baruch Hu? Et le seul problème, quand on réussit, tout de suite, on se s'accrédite nous-mêmes. On dit, c'est grâce à nous. Si on n'aurait pas fait, et rien serait arrivé. Maintenant, ils disent ici, le Chachamim nous dit que il arrive des points dans la vie qu'on croit qu'on fait, mais à un certain point, on se bloque. Et on réalise, Akadosh Baruch Hu nous donne à réaliser que on ne fait rien du tout. Par exemple, si on prend l'exemple de la sortie d'Égypte. Quand ils sont sortis d'Égypte, 7 jours plus tard, ils ont été poursuivis par l'armée égyptienne. 600 chars qui sont derrière eux, tout un peuple, 3 millions de personnes, hommes, femmes, enfants, ils sont devant une mer qui est encore fermée. Et là, ils n'ont pas où aller. La mer devant eux, l'ennemi derrière eux, de deux côtés, ils ont le désert. Où est-ce qu'on va aller? Là, le Midrash nous dit, le peuple d'Israël se fait en 4 groupes. Ils sont divisés en 4 groupes. Un groupe qui disait, vous savez quoi? On n'a pas le choix, on va faire la guerre contre les Égyptiens. On va faire la guerre, on n'a rien à perdre. De toute façon, ils vont nous tuer. Alors, si pour mourir, au moins on tue quelques-uns. Alors, on fait la guerre. L'autre groupe, il dit, non, pas du tout. On se jette dans la mer. On se jette dans la mer, on va se suicider. Tout le peuple va se suicider. On ne va pas leur laisser ce plaisir de nous tuer. On va se suicider, on va se jeter dans la mer. L'autre groupe qui dit, non, vous savez quoi? Pourquoi se suicider? Pourquoi faire la guerre? Il y a des enfants, il y a des femmes. On va se rendre. On va se rendre, on va leur dire, excusez-nous, on croyait, c'est lui qui, mon cher Abbé, nous a trompés. On va se rendre gentiment, on va retourner au travers le double si vous voulez. Mais laissons-nous tranquilles. Et le 4e groupe qui dit, non, on va commencer à crier pour leur faire peur. On va commencer à crier, on va leur faire peur. Ça marche pas. Donc, en fin de compte, qu'est-ce qui t'est arrivé? Ils croyaient faire la guerre. Ils croyaient se suicider. Ils croyaient de retourner comme esclave encore. Ils croyaient crier, si ça marche, ça marche pas. En fin de compte, qu'est-ce qui t'est arrivé? La mer s'est ouverte. Ça veut dire que la délivrance, comment elle est venue? La délivrance est venue dans une chose qu'ils n'ont même pas pensé. Personne n'a pensé, peut-être Akadosh Baruch Hu va en faire un miracle qui va ouvrir la mer. Mais personne n'a pensé à ça. Toutes sortes de pensées, retourner, faire la guerre, se jeter, tout ça. Mais pourquoi personne n'a pensé, peut-être, si Akadosh Baruch Hu nous emmenait jusque-là, il y aura pour sûr un miracle que la mer va s'ouvrir et nous on va passer. Mais personne n'a pensé. Justement, Akadosh Baruch Hu leur dit, écoutez, vous ne savez jamais comment la délivrance va venir. Tout ce que je vous demande, vayaminu badonai ou Moshe avdo. Et la croyance en moi et en Moshe. C'est tout. Parce que vous planifiez, et à la fin, en fin de compte, rien se passe de la manière que vous, vous l'avez planifié. Je vais vous raconter une petite histoire. Je la trouvais très belle au temps de la Deuxième Guerre mondiale, au temps de l'Holocauste. C'était vers la fin de la guerre. Et déjà, les Allemands, les Alliés sont mis ensemble contre les Allemands. Les Allemands savaient déjà, de jour au autre, ils vont tomber entre les mains des Alliés. Alors là, ils faisaient des ravages, des massacres doubles qu'ils faisaient avant. Ils ont concentré les Juifs dans un camp de concentration et ils tuaient le double qu'est-ce qu'ils faisaient avant. Maintenant, entre-temps, les Allemands ont pris aussi des captifs russes qui faisaient la guerre contre eux et aussi ils étaient maltraités dans le camp de concentration. Maintenant, dans un jour, il y a un juif qui passe et il sait que de jour à l'autre, ils vont être libérés. Tout le monde savait. Un jour, ils font une annonce dans le camp. Ils disent que le soldat russe se présente comme ils savent, les Allemands leur disent, comme on sait que les alliés vont rentrer dans le camp, ils vont vous demander comment on vous a traité. Et on veut que vous dites que vous étiez bien traité. C'est pour cela, ils leur ont préparé de pain chaud et en leur disant, voilà, on vous donne de pain chaud, on vous donne tout ce qu'il faut, mais quand ils vont rentrer, les Anglais, les Américains et tout ça, dites-leur qu'on vous a bien traité. Il y avait un juif qui passe par là-bas et il voit deux grands sacs avec du pain chaud. Que les soldats qui font la queue, chacun passe, il prend un pain chaud et il est content et tout ça. Il a dit, pourquoi je ne me fais pas comme un des soldats russes? Personne ne va savoir. Qui c'est qui c'est un soldat russe, pas un soldat russe? Ils ne vont pas savoir. Il se met dans la queue. Et il fait la queue, il attend. Maintenant, avec ses yeux, il est en train de compter le petit pain chaud qu'il y a dans le deux sacs. Et il attend, il dit, oi, oi, je vois que ça commence à se vider, j'ai peur quand mon tour arrivera, il n'y aura plus de pain. Et effectivement, il y a trois personnes devant lui, il y a trois pains chauds qui restent dans la boîte. Et dès qu'il arrive, lui, il reçoit le dernier pain. Dès qu'il reçoit le dernier pain, il veut partir. Qu'est-ce qu'il voit? Il voit des soldats allemands qui arrivent avec deux autres grands paniers avec des pains. Et là, il y a encore des soldats qui viennent faire la queue pour recevoir ce pain chaud. Alors lui, Baruch Hashem, c'est un businessman. Il a dit, j'ai eu déjà un, pourquoi pas avoir un autre? Alors il a mis un dans la poche, il a fait de retour, il s'est mis dans la queue pour recevoir un autre pain. Et il attend. Une heure plus tard, il arrive et il reçoit son pain. Il a deux pains maintenant. Dès qu'il veut sortir de la queue, il y a une main qui l'attrape sur le cou. Il dit, hey, ça fait le deuxième pain que tu as pris, je t'ai vu. Qui c'est? C'est un soldat russe. Il dit, d'abord, toi, tu n'es même pas un soldat russe. Toi, tu es un juif. Tu n'as pas le droit de prendre ce pain. Et il commence à l'insulter. Il dit, donne-moi le deux pains. Et l'autre, il dit, je ne te donne pas. Moi, je le repris, c'est pour moi. Il dit, donne-moi tout de suite le deux pains. Il dit, non, je te donne pas. Il a appelé deux autres personnes, c'était de grande taille. Ils l'ont pris dans une allée. Ils l'ont massacré. Des coups de poing, des coups de pied. Il a perdu connaissance. Top. Et ils sont partis. Quand il se réveille, il commence à se réveiller. Il regarde le ciel et il voit le soleil. Lui, il croyait qu'il s'est endormi ou quelque chose comme ça. Il regarde le soleil, il me dit, mais c'est pas possible. Jamais je me suis réveillé le matin quand il y avait le soleil d'or. Toujours, ils les ont levés le matin à 5h, 4h, 5h du matin pour aller travailler quand il faisait noir d'or. Lui, il croyait qu'il s'est endormi. Mais lui, c'est pas possible, il y a le soleil. Et après, tout de suite, il commence à réaliser avec le mal qu'il a sur le visage, sur le corps et tout ça, il commence à réaliser qu'est-ce qui est arrivé. Il va se lever, il se lève, il regarde, qu'est-ce qu'il voit? Tous les soldats qui ont fait la queue, ils sont tous morts devant lui. Pourquoi? Tout le pain a été empoisonné. Ils ont fait ça pour empoisonner ce soldat-là. Alors lui, il commence rien qu'à réaliser le miracle qu'Akadosh Baruch Hu a fait. Pourquoi? Parce que s'il aurait mangé ce pain ou le deux, il serait mort. Alors lui, il croyait que la délivrance est arrivée. Akadosh Baruch Hu, voilà, en fin de compte, il a trouvé du pain dans le camp de concentration et tout ça, et même le doux portion. Il pensait. Mais qu'est-ce qui arrive à la fin? Tout cela, même ceux-là qui l'ont pris le pain, c'est le chesed, c'est la bonté d'Hachem. C'est pour ça qu'on dit « Noten lechem le chol basar ». Akadosh Baruch Hu donne le pain à qui? À basar, à une chair vivante, pas à quelqu'un qui va mourir. Alors lui, il croyait, quand il se fait avoir, il s'est fait presque tuer, que c'est la fin, mais au contraire, c'est le début pour lui. Parce que sinon, il serait comme tout le monde. C'est ça? Pour dire qu'on ne sait jamais Comment Akadosh Baruch Hu envoie la délivrance? On ne sait jamais. C'est rien qu'Akadosh Baruch Hu qui le sait. Mais tout ce qu'Akadosh Baruch Hu nous demande, c'est avoir la Emouna. Une autre remarque dans chez nos sages, c'est l'histoire de Rachel et Léa. Rachel et Léa, ces deux sœurs. Voilà la jeune, la plus jeune, elle trouve son khatan. Yaakov. Yaakov, il dit à Lavan, voilà, c'est elle que je veux, je suis prêt à travailler pour elle 7 ans. Il dit tout de suite, pas de problème, prends. Mais il savait qu'il va lui tourner la tête parce que tout le monde connaissait Lavan. Alors il parle à sa future kala, il lui donne des simanim, il lui donne des signes. Il lui dit, écoute, la nuit, je vais te poser des questions. Le Rav Ben Ishraï, dans chaque commentaire, il y a deux autres opinions. Quel était le simanim? Par exemple, le Rav Ben Ishraï dit, il lui a dit, quand je vais te dire quel est ton nom, dis-moi Léa. Pourquoi? Parce que s'ils vont rentrer Léa, qu'est-ce qu'elle va essayer de dire? Je suis Rachel et je vais l'attraper tout de suite. Alors dis-moi que tu es Léa. Léa, elle avait l'intention de dire Léa, mais sa sœur ne voulait pas qu'elle ait honte. C'est ça? Qu'est-ce qu'il fait Rachel? Elle lui dit à sa sœur, quand tu vas te poser la question qui tu es, dis que tu es Léa. Qu'est-ce que dit la Torah? Vine baboker, le lendemain, qu'est-ce qui arrive? Veine Iléa. C'était en réalité Léa. Elle lui dit, qu'est-ce que tu m'as fait? Elle dit, je vais pas mentir. Tu m'as dit, comment je m'appelle? Je m'appelle Léa. Elle dit, mais ça, c'est quelqu'un qui te l'a dit. Il dit, oui, ma sœur. Maintenant, Rachel a été, si on veut, gentille. Elle a donné le signe à sa sœur. Imaginez-vous s'il serait méchante. Elle aurait dit à sa sœur, à sa sœur plus âgée, non, de quel droit tu vas me prendre mon mari? C'est le soir de mon mariage, je me suis préparé pour le mariage, et toi tu vas prendre ma place. Imaginez-vous qu'elle serait méchante, elle aurait dit non, je ne te donne pas. Qu'est-ce qui serait arrivé? Alors, lisons un peu la Torah plus tard. Qu'est-ce qui arrive avec Rachel? Elle était stérile. Elle était stérile. Maintenant, imaginez-vous, elle aurait réussi, si elle serait méchante, elle aurait réussi à enlever sa sœur de son territoire, pour combien de temps? 10 ans. Parce que Yaakov serait marié avec elle 10 ans. 10 ans plus tard, s'il n'aurait pas eu des enfants avec elle, qu'est-ce qui serait arrivé? Dit Rashi, il aurait divorcé, elle serait obligée d'aller marier Esav. Et là, Yaakov serait marié avec Léa. Et Yaakov serait le seul mari de Léa. Et Rachel sera transférée à Esav. Maintenant qu'elle a été gentille, elle n'a pas perdu. Elle n'a pas perdu qu'elle a laissé sa sœur lui devancer. Pourquoi? Parce qu'elle est restée mariée avec Yaakov. Tandis qu'on ne gagne rien. Des fois, on fait toutes sortes de comptes. Tu sais que s'il faut que je me protège, il faut. Des fois que tu penses toutes ces choses-là, mais quoi, en fin de compte, c'est moi qui surveille tout, c'est moi qui va tout faire à la fin. Alors tu n'as pas à te soucier, tu n'as pas à te faire des plans, parce qu'en fin de compte, c'est moi qui va décider qu'est-ce qui va se passer. Toi, sois gentil. Toi, aie la croyance. Fais ce que tu as besoin de faire. Et ne fais pas trop de comptes, si, parce que Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui va décider en fin de compte. Alors c'est ça. Tout ça, ça revient pour la paracha en disant quoi? Que la Torah nous donne une mitzvah, ce Shabbat dans la paracha, de travailler la terre 6 ans, de la laisser reposer la 7e année. Ne touchez pas la terre. Comme cette année justement, 5778, c'est une année sabbatique. En Israël, c'est une année qu'on ne cultive pas la terre, on ne touche pas la terre, à moins qu'elle est vendue à des non-juifs ou qu'on importe. On importe la récolte de l'extérieur. C'est ça? Mais on ne touche pas la terre. Et Akadosh Baruch Hu nous dit, sachez que ça prend beaucoup de croyances. Ça prend beaucoup d'efforts et de croyances. Pourquoi? Tu as des enfants, tu as toute une famille, et tu dis, Manochal, qu'est-ce que je vais manger? Mais le fait que tu as posé déjà la question, tu es descendu de niveau. Tu as descendu de niveau, ce n'est pas la Emouna qu'il faut avoir. C'est quoi la Emouna? Même pas poser de questions. Si Akadosh Baruch Hu te dit, tu le fais. Et tu verras qu'il y aura une bénédiction. Et la bénédiction ne se verra pas. Ce serait une récolte normale. Mais tu auras une bénédiction. Mais ça, il faut avoir la croyance. Et ça, c'est dans toute chose dans la vie. Toute chose dans la vie, il faut que nous ayons cette croyance. On a Akadosh Baruch Hu. Et en ayant cette croyance, Akadosh Baruch Hu nous envoie la délivrance. Je m'arrêterai là.